Il est 9h41 sur France Inter, démarrage en trombe de l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Je sais, je ne suis pas allé chercher mon invité très loin, mais le renouveau des émissions culturelles à la télévision est un sujet sur lequel il est difficile, impossible même, de faire l'impasse. Or, stupéfiant, France 2, c'est Léa Salamé, Personne ne bouge, Arte, c'est Philippe Collin, 21 cm, Canal+, c'est Augustin Trapenard, Drôle d'endroit pour une rencontre, France 3, le vendredi à 23h40, c'était Nicolas Demorand, et maintenant c'est vous, Ali Badou, bonjour.
Bonjour Sonia.
Également intervieweur, donc, du vendredi matin. Sur France Inter pour qui, voilà, l'aurait...
Coupable, je plaide coupable.
Bah moi aussi. Bref, pour parler de culture à la télé, je me heurte sans cesse à des voix de France Inter. Je suis donc ce matin obligée d'inviter un confrère. C'est dit. De quoi parle un artiste lorsqu'il vient sur un plateau télé? Ça n'empêche que c'est une vraie bonne question. On y vient juste après Bruno Denet. Salut Bruno.
Bonjour Sonia, vous êtes cerné.
Voilà, ne me dites pas qu'on est venu vous chercher vous aussi pour causer culture à la télé.
Je ne vous dirai rien.
Si, et dans l'émission d'Ali
si.
Badou.
Absolument.
Et voilà, si. Je suis foutue.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Alors, pour commenter l'actu des médias, le CSA va un petit peu plus loin que la nouvelle loi qui s'appelle la loi Bloche et publie quelques recommandations en matière d'éthique et de déontologie de l'information pour le service public dont nous sommes évidemment. Le CSA préconise un comité d'éthique pour chaque rédaction et pas seulement au niveau du groupe. Ça signifie par exemple un comité d'éthique pour chaque région de France 3 ou pour France Info par exemple et pas seulement pour tout Radio France. Le CSA propose que les membres de ces comités ne touchent pas d'indemnités financières pour qu'ils soient totalement indépendants, rendent des comptes chaque trimestre et pour ça ce serait pas mal qu'ils soient un petit peu plus que 5, ça fait pas mal de boulot, qu'ils puissent être révoqués s'ils ne tiennent pas leurs engagement et qu'ils garantissent surtout l'anonymat de toute personne qui les alerterait au sein d'une rédaction. Ceci évidemment ne vaut que pour le service public, mais côté privé, à bon entendeur, salut. Et ce d'autant que le groupe Canal+ a lancé hier sa chaîne Tout Info sur les cendres de iTélé, elle s'appelle CNews, et Gérald Brice-Villeray, donc qui est patron des antennes de Canal, l'a dit à ce micro la semaine dernière. La charte de déontologie et le comité d'éthique viendront en mars, c'est donc la charrue avant les bœufs. Bruno, du coup, vous avez passé toute votre journée devant la nouvelle chaîne d'info qui s'appelle CNews, et vous nous dites que vous avez vécu un lundi difficile.
Oui Sonia, je me suis livré effectivement à cette expérience un peu douloureuse, parce que j'ai eu envie de comprendre ce que le tout nouveau slogan de CNews, la chaîne info, décryptage et opinion, pouvait bien signifier. Du coup, je me suis tapé toute une journée d'infos, de décryptage et d'opinion, et je vais vous raconter ce que j'ai eu. Alors, j'ai commencé à 7h par la matinale, et tandis que le week-end avait pourtant été bien chargé en infos, entre l'attaque du bus du Front National, l'alliance impossible entre Hamon et Mélenchon, ou encore la montée de Martin Schulz en Allemagne, eh bien, je n'ai eu droit qu'à de très rares images du PSG, du Salon de l'Agriculture et de la Gourance aux Oscar. Et puis, à 8h05 est arrivée l'heure du vaisseau amiral de l'info, l'interview politique de...
Bonjour Thierry Soler.
Bonjour Jean-Pierre Elkabbach.
Jean-Pierre Elkabbach, conseiller de Bolloré, qui assure un interminable entretien de 20 minutes et qui a manifestement convaincu son pote Vincent de ne surtout pas hésiter à bien l'exposer dans la grille, puisque figurez-vous qu'à 10h35, j'ai réentendu ça.
Bonjour Thierry Soler.
Bonjour Jean-Pierre Elkabbach.
Voilà, et alors que je me demandais si c'était quand même bien raisonnable de rediffuser Elkabbach qui dure déjà 20 bonnes minutes, et ben à midi 10, ils m'ont balancé ça les fourbes.
Bonjour Thierry Soler.
Bonjour Jean-Pierre Elkabbach.
Voilà, du coup de l'opération, une heure de John Peter. Et pour le décryptage, et ben alors là, j'ai pas été déçu du voyage. D'abord, parce que je n'étais pas bien sûr de connaître la réponse à la question à suspense qu'a posé le chroniqueur économique.
Comment se porte l'agriculture française?
Et que je dois avouer que sa conclusion m'a permis de bien gagner en savoir.
Eh bien, elle se porte de moins en moins bien.
Waouh. Mais surtout parce que grâce à Pascal Praud, j'ai pu dès 9h du matin bénéficier d'un savant décryptage autour d'une question qui personnellement me passionne et que j'ai trouvé incroyablement neuve.
Faut-il avoir peur de la chirurgie esthétique?
Voilà, neuve et surtout paracoleuse grâce aux lumières d'un certain Richard, un gars qui décrypte en long et en large.
Richard est spécialiste, entre autres, de la chirurgie esthétique pour les hommes et de
comment on dit, l'allongement du pénis, de donner un pénis plus gros.
Eh oui, c'est pas facile de trouver les mots. Enfin, pour ce qui concerne les opinions, avec un S, j'ai entendu celle de Nicolas Bétou, le fondateur du très à droite L'Opinion, ça s'invente pas, qui était opposé, attention, ça aussi c'est du neuf, au très à gauche, Jean-Luc Manot. Et comme ils étaient pas tout à fait d'accord, à un moment, il y en a un qui a dit à l'autre « Je vous ai pas interrompu, laissez-moi parler !»
L'accusation.
Si je peux finir, c'est quand même incroyable.
Si vous pouvez me laisser commencer, c'est sympa aussi.
Voilà. Alors, qu'est-ce que la vacuité abyssale de tout ce que je viens de décrire nous dit exactement? Eh bien, elle nous dit que pour faire une chaîne de télé, il faut des idées et que ceux qui pilotent CNews n'en ont pas. Mais elle nous dit surtout qu'en plus des cerveaux, il faut des bras et que CNews n'en a plus. Les 80 journalistes qui sont partis après 31 jours de grève dans une indifférence quasi générale n'ont pas été remplacés. Ceux qui fabriquaient les reportages, qui donnaient du sens, du souffle et du corps à l'information ont laissé leur place à des décrypteurs de zizi. Du coup, il n'y a plus personne pour produire l'info, pour mettre les mains dans le cambouis et encore moins pour aller sur le terrain, à telle enseigne que dans l'un des rares reportages que j'ai pu voir hier, écoutez bien qui s'est chargé d'assurer la voix off qui lisait un verbatim de Fillon.
J'accuse solennellement le Premier ministre et le gouvernement de ne pas assurer les conditions d'un exercice serein de la démocratie.
Le monsieur météo de la chaîne, non. Le type qui normalement dit ça.
On n'a pas eu de printemps l'an dernier, l'hiver a duré 6 mois.
Eh ouais, sur CNews, ma bonne dame, en matière d'information, non seulement il n'y a plus de saison, mais en plus, il n'y a plus personne.
Merci Bruno Donnet.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Drôle d'endroit pour une rencontre, c'est donc le lieu que nous avons choisi pour rencontrer Ali Badou. C'est donc un studio à France Inter comme ça.
Le studio où je travaille tous les vendredis matins.
Exactement, le studio où vous travaillez tous les vendredis matins. Question d'actualité politique, Ali Badou, c'est vous qui ancrez tout entière votre émission culturelle dans l'actualité politique. Vous l'avez bien cherché, Emmanuel Macron.
J'ai dit, il n'y a pas une culture française. Mais c'est la vérité, ou alors que ceux qui disent cela aillent me dire si Picasso, Chagall et quelques autres sont dans la culture française, dans leur définition. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu.
Avez-vous déjà vu l'art français, Ali Badou ?
Non.
Non ? Donc vous épousez totalement cette...
Je comprends ce qu'il veut dire, mais c'était très maladroit dans le cadre d'une campagne présidentielle, puisqu'il est du coup accusé de multiculturalisme, mais sur le fond, sur l'idée que l'art...
Gros mot ?
Gros mot, multiculturalisme. Oui, c'est même une insulte. Non, je pense que c'est vrai, il y a des influences qui viennent de partout, c'est très étrange de considérer qu'il y aurait un art, ou alors ce serait un art patriotique, un art qui ne serait pas un art.
Qui ne serait pas un art, ouais. Voilà. Et vous qui avez vécu dans différents pays et qui avez deux nationalités, justement, vous vous sentez dans cette France totalement ouverte, accueillant les talents, les artistes, les agrégeant et fabriquant une culture en France et non pas une culture française ?
Ah bah c'est la France à laquelle j'ai envie de chanter « Douce France », cher pays de mon enfance, c'est celle-là, c'est vrai, et c'est ma France.
Votre première invitée, c'est donc Christine Angot. Il n'y a plus 3 invités comme les recevait Nicolas Demorand juste avant vous, mais désormais un invité qui va dialoguer avec un deuxième invité au cours de l'entretien. Christine Angot vous dit ceci.
Un artiste sait en effet qu'il ne peut pas tout faire, alors que les gens de pouvoir veulent tout. Et ils veulent notamment l'art, et ils veulent aussi le pratiquer. Bon, et alors pourquoi ils veulent écrire quand même ? Je crois que c'est parce qu'ils veulent détruire l'art. Parce que ça les embête que ça leur échappe. Donc ils veulent détruire ce qui leur échappe.
Voilà, une déclaration qui m'a totalement séchée. D'ailleurs, vous aussi, on le voit oui, à l'image.
Parce que j'étais à la fois médusé par l'intelligence de ce qu'elle disait, entre la différence entre le pouvoir et l'action politique et le travail artistique, quand elle dit finalement que tout pouvoir est quasiment un excès de pouvoir. En tant que tel, qu'on a toujours en tête quand on a le pouvoir le fantasme ou l'idée du pouvoir absolu et que l'artiste il est forcément dans la tentative, dans ce qui va peut-être ou peut-être pas marcher, dans ce qui va peut-être ou peut-être pas rater. Je trouvais ça très très juste.
Elle vous dit aussi qu'un homme politique qui s'empare de la littérature, et ils sont nombreux les hommes politiques français à s'être emparés de la littérature, est quelqu'un qui détruit d'une certaine manière la littérature parce que ça lui échappe. Elle vous dit aussi qu'on nous a fait croire que la France avait été dirigée pendant 14 ans par François Mitterrand, par un homme de lettres, par un écrivain, et que c'est faux.
Et elle dit que c'est faux pour François Mitterrand et pour Charles de Gaulle, pour les deux. Et même pour Churchill. Et elle trouve que finalement, il y a comme une sorte d'impossibilité quand on est un homme de pouvoir à être profondément, sincèrement, intimement, un artiste.
Voilà, et en même temps, elle vous dit que tout est politique en littérature, que même le récit intime, le récit amoureux est un acte politique, est un choix politique. Est-ce que c'est Christine Angot qui vous a fait ancrer cette émission culturelle dans le champ politique et dans le champ de l'actualité, ou est-ce que c'est une vraie envie de votre part, qui rejoint d'ailleurs ce que vous faites sur France Inter le vendredi matin?
C'est d'abord le drôle d'endroit, puisqu'on lui a donné rendez-vous dans les anciens locaux du journal Libération et qu'on est rentré dans Libé où elle écrit, où elle est chroniqueuse, donc c'était pas par hasard. Et dans cet endroit déserté par la rédaction qui a déménagé, il restait des ordinateurs, des disques durs, des archives
quand
dans
même,
tous
vous
les
vous
sens.
Quand même, vous vous êtes pas dit que vous prenez la suite de Nicolas Demorand qui a été le patron de Libération et que vous allez vous coller à Libération?
Si.
Non, non, parce que quand même, vous faites comme si de rien n'était pendant l'émission. Alors que, ouais, quand même. Ouais.
Alors qu'il était à la tête de Libération et que je lui succédais à drôle d'endroit pour une rencontre. Mais il y avait un truc très intéressant, c'est que quand elle se baladait et qu'elle regardait les unes de presse, elle avait un regard très distancié par rapport à ça et en même temps très impliqué. Je ne sais pas comment vous le dire, une attitude assez ambivalente. Mais c'est le lieu qui dictait plutôt le questionnement.
C'est le lieu qui dictait plutôt le questionnement. Et en même temps, c'est très intéressant de se demander comment aujourd'hui on inclut la culture dans le champ politique et l'inverse. On se demande quand même pourquoi cette émission fait des économies d'électricité, parce que c'est bien d'aller dans un endroit déserté par tout le monde. Désaffecté et assez bordélique, mais on se demande pourquoi vous l'éclairez pas. C'est le problème de cette émission depuis le début, c'est tout sombre.
C'est tout sombre. D'abord, c'est une émission qui est diffusée tard le soir, on va pas faire comme si on était en plein jour.
C'est ça la télé, j'apprends.
C'est ça la télé.
Ali, dites-lui que la prochaine sera dans les grottes de Lascaux quand même.
C'est vrai en plus.
Et vous allez les éclairer les grottes de Lascaux une fois pour tout.
Les grottes de Lascaux à la torche.
Faites quelque chose.
Avec le tremblé pour faire sortir les
peintures. Bon, moi je dis allumer la lumière. Bref, je dis allumer la lumière.
C'est noté, c'est promis.
Non mais oui, vraiment. Christine Angot, vous la faites dialoguer avec Delphine Horviller qui est rabbin, que vous présentez aussi comme une ancienne journaliste. D'ailleurs, vous en faites un point de rencontre.
Oui, et qui a travaillé à Libération, elle y a fait un stage.
Voilà, pendant des années, c'est ce qu'a fait Frédéric Taddeï, c'est de choisir des gens de culture, non pas pour promouvoir leur spectacle, leur film, leur livre, mais plutôt pour les plonger dans le débat de société du moment, les confronter à toutes les questions de religieux, d'économie, de politique. C'est quand même une vraie question. De quoi on fait parler un artiste quand on le fait venir à la télévision?
Alors, il y a deux choses. Ce que vous décrivez de Frédéric Taddeï, en vérité, c'est une idée ancienne et c'est une idée qu'ont eu Elor Adler et Laurence Bloch à l'époque de France Culture, qui était de considérer que...
Dont vous avez animé la matinale.
Entre autres, mais qui était de considérer que pour parler du monde dans lequel on vit, il valait mieux écouter, ou on pouvait aussi écouter, en plus des politiques, des artistes, des écrivains, des cinéastes, des intellectuels, qu'ils avaient quelque chose à nous dire du monde dans lequel on vivait. Ça, c'est une conviction qui a fait la modernité de France Culture, on va le dire aujourd'hui. Et c'est une idée qui maintenant date d'il y a une quinzaine d'années. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que... comment dire ? Ouais, c'est pas forcément pour parler d'actualité qu'on reçoit les artistes. Mais là, en l'occurrence, comme Christine Angot, elle est à la fois écrivain et qu'en plus, elle fait des chroniques politique, engagée, qu'elle a suivi les campagnes de Nicolas Sarkozy, de Bruno Le Maire, qu'elle a été à des meetings de Marine Le Pen, qu'elle a rencontré François Hollande. Je voulais l'interroger justement sur la différence entre le fait d'écrire des choses vouées à l'éphémère, engagées, et d'autres qui étaient plus intimes, personnelles, comme ces romans.
Parce que quand on regarde votre émission, alors on s'est demandé évidemment depuis très longtemps si la télévision était, si la télévision pouvait encore instruire son public ou si elle était condamnée à tout transformer
en
divertissement.
Oui, non.
En divertissement. Mais justement là, quand on regarde Stupéfiant qui adopte les codes du magazine d'info, et là ce que vous faites en ce moment, on se demande si la télé est obligée de tout transformer en sujet d'actu. S'il y a une place pour l'acte littéraire, pour l'acte créatif, pour l'acte artistique en tant que détaché de tout cela.
Moi, ce que je trouve passionnant dans la rencontre avec Christine Angot, c'est qu'on a eu droit quasiment pendant 20 minutes à une sorte de masterclass sur son art d'écrivain, sur la manière qu'elle a de raconter tout simplement ce qu'elle fait quand elle écrit. Et c'est assez passionnant parce qu'elle est à la fois inquiète, elle raconte les doutes, elle raconte aussi
la souffrance.
La souffrance,
les mois, les années
la matière
de souffrance.
Première, pour trouver une phrase, un mot, le mot juste. Et pour le coup, oui, cet art du roman-là, on est très très loin de l'actualité au sens où on l'entend d'habitude.
À qui parle cette émission? Qui voulez-vous qu'elle aille chercher, Ali Badou?
À tous ceux qui sont curieux, à tous ceux qui sont curieux de savoir ce qu'un artiste a dans la tête.
J'ai lu, et on l'avait reçu d'ailleurs à ce moment-là, Télévision au pluriel, c'est le petit livre que Bruno Patino, qui était le numéro 2 de France Télévisions, aujourd'hui patron des programmes d'Arte.
Ancien patron de France Culture
voilà,
aussi.
Voilà, ancien patron de France Culture, donc qu'il a publié après son départ de France Télévisions. On s'en souvient, le bilan de Rémi Fimelin et de son équipe avait été très critiqué sur le désert culturel. Et lui, il précisait ceci, il précisait que les émissions culturelles rassemblent un public aujourd'hui déjà conquis d'avance. Que la grande librairie est très précieuse, mais qu'elle parle à des femmes plutôt éduquées, déjà grandes lectrices, déjà consommatrices de livres, et que ces programmes ne permettent plus d'aller chercher des nouveaux publics, de créer des nouveaux intérêts pour des gens qui n'y auraient jamais
très, très dur.
Accès.
C'est très très dur, il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Vous regardez par exemple sur France Inter l'émission d'Augustin, Boomerang, écoutez, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense par largement plus d'un million de personnes,
un million et demi de personnes
tous les jours. Pourquoi ça n'existe pas à la télé ?
Parce que c'est devenu très difficile de réunir en deuxième partie de soirée plus d'un million et demi de personnes.
Ouais.
C'est ça aussi la question,
mais
c'est l'heure de votre programmation.
Si on diffusait, alors ça, il y a ça évidemment, mais si on diffusait ça en prime time, est-ce que ça marcherait de la même manière ? Est-ce qu'il y aurait un million et demi de personnes ?
Alors ce serait manifestement pas construit du tout de la même manière.
Ouais.
Et c'est intéressant de s'intéresser au texte de Bruno Patino, parce que lui il dit c'est plus la télévision qui éduque le public à la culture et qui transmet la culture au public, c'est la culture qui est obligée d'absorber les codes de la télévision pour pouvoir se transmettre. Mettre au public. Et ça donne prestige, ça donne toutes sortes de grands shows justement de prime time qui absorbent la télé-réalité, qui absorbent les codes du divertissement pour pouvoir faire ça. Comme de la même manière, vous absorbez...
Pour séduire, pour accrocher.
Pour séduire, pour accrocher. Comme d'une certaine manière, vous récupérez vos années de talk show quand vous faites drôle d'endroit pour une rencontre.
Ça c'est sûr, parce que de toute façon à la télévision, quand on est à la tête d'une émission, on est forcément d'une certaine manière animateur, on n'est pas que journaliste. Et la question qui est posée par Bruno, je suis pas complètement sûr qu'il ait raison jusqu'au bout. Parce que la culture à la télé, c'est aussi des documentaires, ça passe aussi par d'autres formes que la pure émission de plateau où on reçoit un artiste ou un écrivain.
Ouais. Vous avez été l'animateur et aussi le pilier chroniqueur du Grand Journal pendant des années. On a oublié que ces années où il y avait moins d'émissions culture à la télé, il y avait les talk shows qui aspiraient tous les grands invités.
Ouais.
Donc vous avez été à la fois prescripteur, vous donniez des conseils culture et en même temps l'interview promo dans le cadre du talk show. C'est sûrement un des exercices les plus difficiles qui soit à la télévision.
C'est pas évident.
C'est totalement coincé.
C'est difficile de le déverrouiller, ça c'est vrai.
Et là vous déverrouillez ?
Là j'essaye de me déverrouiller. Moi d'abord. D'abord, pour déverrouiller les invités, oui.
Merci beaucoup, Ali Badou.
Voilà,
ce sera vendredi, 23h40, et ce sera sur France 3.
Et avec Bruno.
Chut, ça suffit. Dehors. Dehors, les gens de la télévision qui viennent piquer les gens de France Inter. Bonjour, Ali Rébéi.
Bonjour, Sonia de Villers.
Parlez-nous un peu de ce qui se passe à
pour
France Inter.
Pour qui avez-vous déjà éprouvé de la gratitude ?
Beaucoup de gens.
Ouais.
Ouais.
Bah, ce matin, on s'intéresse aux bienfaits de la gratitude. Dites-nous pour qui vous avez déjà éprouvé de la gratitude, de la reconnaissance au 01 45 24 7000.
Et je pense que c'est drôlement important d'éprouver de la reconnaissance.